Nous voulons demander au Seigneur qu'il nous donne une même pensée. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois te remercier et te bénir parce que nous pouvons compter sur ta présence et sur l'onction de ton esprit et la puissance de ton amour pour gagner tous nos cœurs. Nous voulons te demander que nous fassions ce matin encore l'expérience d'Ézéchiel qui entrait dans la rivière. L'eau lui montait d'abord jusqu'aux chevilles des pieds, puis l'ange lui disait d'avancer encore, et l'eau lui montait jusqu'aux genoux, et il avance encore, l'eau lui monte jusqu'aux reins, et il avance encore, et finalement il doit nager. Oh, que nous puissions vraiment être portés par cette eau de la grâce, et que nous puissions nager dans cette grâce, dans la liberté de l'esprit. C'est ce que nous te demandons ce matin en te priant d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre les merveilles de ta loi et aussi d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions aimer cette parole pour l'amour de ton nom. Amen. Alors nous sommes déjà dans notre dernière étude, le 23 octobre de cette année 1988, où nous avons poursuivi notre étude sur les caractères d'un vrai réveil spirituel, traitant le deuxième volet, la maison sur son fondement. Nous avons vu en février qu'un des premiers caractères d'un réveil, c'est de remettre l'autel sur ses bases, c'est-à-dire c'est de remettre la croix au centre de chaque vie et de chaque communauté aussi. Puis un deuxième caractère, c'est que quand un réveil se manifeste, eh bien les pierres sont posées sur l'ancien fondement, et il n'y a qu'un fondement, c'est Jésus-Christ, comme nous le montre déjà l'Ancien Testament. Il n'est pas question de faire une nouvelle maison, il est question de rebâtir sur les bases qui ont été données par Dieu pour la première maison. Il y a combien de maisons de Dieu? Au fond, il n'y en a qu'une. Nous avons bien saisi cela. Et alors, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament et nous voyons comment a été édifiée l'Église. Hier soir, nous avons vu le commencement de la manifestation visible de l'Église. Jésus avait dit dans son ministère que sur la confession de l'apôtre Pierre, il bâtirait son Église. C'était quelque chose de nouveau. Mais cette Église, il ne pouvait la bâtir qu'après sa mort, par la descente du Saint-Esprit. Jusque-là, Jésus avait été avec ses disciples. Depuis la Pentecôte, il serait dans ses disciples. Et c'est pourquoi il leur disait, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais, le Saint-Esprit ne vous sera pas donné. Et quand le Saint-Esprit serait là, eh bien, il n'aurait plus seulement Jésus avec eux, extérieur à leur vie, mais il l'aurait dans leur vie, en eux. Et chaque croyant deviendrait, en quelque sorte, le temple du Saint-Esprit. Vous êtes, dira l'apôtre Paul, le temple du Saint-Esprit. La demeure de Dieu, c'est pas au fond du ciel maintenant, c'est dans nos cœur. Et nous avons à manifester cela dans le monde. Alors, les pierres rassemblées, nous sommes la maison de Dieu quand nous sommes rassemblés. Les pierres rassemblées forment la maison de Dieu. Et puis aussi, chaque croyant individuellement est un temple pour le Seigneur. De sorte qu'on peut dire que là où il y a un chrétien, il y a la présence de Dieu. Et nous devons être sensibilisés à cela. Alors, nous voulons voir comment ces vérités ont été annoncées. Nous avons vu l'apôtre Pierre, après avoir connu cette expérience de l'Esprit Saint qui est descendu sur eux, a prêché, et maintenant nous voyons l'apôtre Paul, vous connaissez sa conversion, je ne reviens pas sur ce sujet, comment cet homme qui était autrefois persécuteur de l'Église est devenu l'instrument de Dieu, se laissant faire par Dieu pour apporter l'Évangile aux païens. Et non seulement il y avait une Église maintenant à Jérusalem, mais il y en avait une aussi à Antioche. Et vous savez comment cette église d'Antioche, dont vous avez lu quelque chose dans le chapitre 13, avait été fondée. Ceux qui avaient cru à Jérusalem ont été persécutés. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il y a immédiatement des ennemis. Vous pouvez relier cela avec Esdras. Hein. Dieu faisait une œuvre à Jérusalem et il y a eu des ennemis qui ont essayé d'entraver l'œuvre et qui se faisait. Eh bien, quand le Seigneur a opéré à Jérusalem et a fondé l'Église par le moyen des apôtres, qu'est-ce qu'il y a eu immédiatement après? La persécution. Les premiers croyants ont été persécutés et tous n'ont pas pu rester à Jérusalem. Et la persécution les a fait partir. Et qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, au verset 19 du chapitre 11, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, ils allèrent en Phénicie. Ils n'ont pas pu rester à Jérusalem, ils ne sont pas accrochés à Jérusalem. Puisqu'on les chassait, ils sont allés plus loin. On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. C'est de la folie. On ne peut pas arrêter l'œuvre de Dieu. On ferme une porte à une place et on va plus loin, n'est-ce pas? On n'arrête pas l'œuvre de Dieu. Alors, ils sont partis à Chypre, à Antioche, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé la parole. On continue le ministère ailleurs. Ils ont annoncé la parole d'abord aux Juifs, et il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Quel est le message que nous apportons au monde? Nos misères? Ils auraient pu parler de quoi, eux? Des persécutions qu'ils avaient eues à Jérusalem. Qu'ils avaient tout perdu. Et vous savez, je pense à ceux qui avaient vendu leurs champs, leurs propriétés, et qui avaient donné le prix aux apôtres, comme ils devaient être heureux. Ils n'avaient rien perdu. Ils avaient pu donner, ils avaient donné avant, de sorte que ceux qui avaient gardé certaines choses, ils avaient quand même dû les perdre. Ce que vous ne donnez pas, vous le perdez. Vous risquez de le perdre. Vous ne pouvez, de toute façon, vous n'emporterez rien. Alors, ceux qui avaient eu volontairement à cœur de donner, quand on les a chassés, ils n'avaient plus rien à perdre. De sorte qu'ils ne se lamentaient pas sur leur perte. Ils avaient donné de leur bien d'abord, puis maintenant, eh bien, on les chassait, eh bien, ils allaient plus loin. Mais ce qu'ils annonçaient, c'est la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Voilà des gens qui n'ont plus leur demeure, qui doivent s'expatrier, et qui sont quand même heureux. Et c'est par ce moyen-là que le Seigneur faisait progresser la parole. La main du Seigneur, verset 21, était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent à qui? Au Seigneur. Donc, vous voyez qu'ils travaillaient d'une façon tout à fait désintéressée, ils ne travaillaient pas pour eux, ils ne travaillaient pas pour l'Église de Jérusalem, ils travaillaient pour le Seigneur. Ce qui les dominait, c'était la personne du Seigneur. Et se convertir au Seigneur. Dans la version que j'ai ici, il y a, on va voir comment ils ont traduit cela, verset 21 du chapitre 11, la Tobe le Seigneur leur prêtait main forte, si bien que le nombre fut grand de ceux qui se tournèrent vers le Seigneur et devinrent croyants, n'est-ce pas? Ils sont devenus des vrais croyants. C'est ça, se convertir au Seigneur, c'est devenir vraiment des croyants. Et le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, parce que certains, les apôtres, n'avaient pas été restés quand même à Jérusalem, ils avaient pu rester. Et alors, on leur a envoyé Barnabas jusqu'à Antioche, et lorsqu'il fut arrivé, Barnabas, et qu'il eut vu la grâce de Dieu, j'aime tellement cette parole, hein, la grâce de Dieu, quand elle se manifeste, on la voit. On ne peut pas contester ça. Il a vu la grâce de Dieu, et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est réjoui. N'est-ce pas? Quand vous voyez la grâce de Dieu manifestée dans des âmes, est-ce que vous vous réjouissez ou bien est-ce que vous essayez de contrer cela? Il faut s'en réjouir. Il s'en réjouit. Et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attaché à qui? Au Seigneur. Il ne connaissait pas les autres apôtres, il connaissait le Seigneur. C'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit à qui? Au Seigneur. On se joint au Seigneur. Et c'est cela qui compte. Et alors Barnabas se rendit ensuite pour chercher Saul de Tarse, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Et ils sont restés là combien de temps? Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. Mais vous voyez, aux assemblées, il y avait plusieurs groupes. Et ils se sont joints aux assemblées de l'Église. Mais ces assemblées ne luttaient pas les unes contre les autres. C'était les assemblées de la même Église, mais dans différents foyers, comme nous le voyons à travers tous les Actes. Et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Il faut enseigner la parole. Et quand on se rend compte, de quoi parlez-vous, chers amis? Quand vous allez voir quelqu'un, de qui parlez-vous? Vous devriez parler du Seigneur. Quand vous allez dans une maison et que vous rencontrez quelqu'un, c'est pour parler ensemble du Seigneur, pour l'écouter aussi. Vous dire des choses au sujet du Seigneur. Mais nos conversations, quand nous nous rencontrons en chrétien, nous devrions pouvoir parler du Seigneur. Parce que si vous ne pouvez pas parler du Seigneur, ça ne vaut pas la peine. Se visiter pour parler des choses du monde, des choses passagères, ça ne nous édifie pas. Quand nous nous rencontrons, nous parlons du Seigneur. C'est cela que vous devez bien saisir. Quand Marie est allée chez Élisabeth, de qui ont-elle parlé? Du Seigneur. Hein? Et leur cœur tressaillait de joie. Voilà les visites que nous devons faire. Et alors, ils enseignèrent beaucoup de personnes, parce que les personnes ont besoin d'être enseignées. Elles se sont tournées vers le Seigneur, mais elles sont encore faibles, elles sont peut-être solitaires, elles ont besoin d'être fortifiées. Et il est dit que c'est à Antioche, dans cette ville d'Antioche, que pour la première fois, les disciples ont été appelés, quoi? Chrétiens. On les a appelés chrétiens, disciples du Christ. Alors vous arrivez maintenant à bien comprendre le chapitre 13, parce que vous voyez, un chapitre, quand on commence à le lire, on se dit, oui, mais il faudrait lire avant, qu'est-ce qu'il est dit d'Antioche? On veut savoir ce que c'est, hein. Alors, il y avait dans l'église d'Antioche. Maintenant, vous savez comment l'église d'Antioche a commencé. Il n'y avait rien avant à Antioche. Mais, voilà des persécutés qui sont arrivés avec une bonne nouvelle. Ils n'ont pas parlé de leur persécution, de ce qu'ils avaient perdu, des souffrances qu'ils avaient endurées. Ils ont présenté le Seigneur. Et le Seigneur a opéré dans les cœurs. Ces gens auxquels ils ont parlé se sont joints au Seigneur. Et les églises se sont formées. Alors il y avait dans l'église d'Antioche, vous avez lu ça au chapitre 13, hein, maintenant vous voyez bien où était cette église d'Antioche, des prophètes et des docteurs. Donc, ce qu'on aurait pu appeler des lévites dans l'Ancien Testament. Il y avait des hommes qui avaient des ministères différents. Ça, nous avons fait déjà ici l'épître aux Éphésiens, et qui nous montre ce que sont ces ministères. On a parlé des sacrificateurs dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient ce ministère d'adoration, et puis ensuite on a parlé des lévites, et dans ces lévites, ce qui peut correspondre ici, ce sont les ministères, les prophètes et les docteurs. Les prophètes, c'était ceux qui recevaient une parole de la part du Seigneur directement du cœur de Dieu et qui la transmettaient aux autres. Et les âmes sentaient que quand ces gens parlaient, ça correspondait à leurs besoins. Le prophète, il ne parle pas de son propre cœur, il est l'oracle de Dieu, il parle de la part du Seigneur. Alors il y avait des prophètes, puis il y avait des docteurs. C'est-à-dire des hommes qui étaient versés vraiment dans la doctrine de l'Écriture, comme l'était Esdras, par exemple, et qui pouvaient leur enseigner les choses profondes de Dieu. Et alors, les noms sont donnés, vous voyez comme on a eu les noms dans le livre d'Esdras, de ceux qui étaient remontés, et bien ceux qui travaillent dans l'Église, il y a des noms qui sont donnés, Barnabas, Simon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahanaïm, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul, donc qui est l'apôtre Paul. Et pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, donc dans un ministère, qu'est-ce qu'on sert? On sert son Église, on sert le Seigneur. C'est toujours au Seigneur que vous êtes remis. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, là on pourrait parler du jeûne et des bienfaits du jeûne qui nous est donné pour nous-mêmes, non pas comme quelque chose qui mérite vis-à-vis du Seigneur, c'est pour nous que nous pouvons jeûner. Pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit. Qu'est-ce qui parle dans cette église? Qu'est-ce qui dirige? Qu'est-ce qui inspire? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Est-ce que c'est l'église qui a décidé, Barnabas et Paul, vous ferez ceci, vous ferez cela? Qu'est-ce qui a décidé cela? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce que l'Église va faire? L'Église va simplement ratifier ce que le Saint-Esprit a dit. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui opère, qui dirige, qui convainc, et les frères qui étaient là, eh bien, ont donné la main d'association à Paul et Barnabas, parce que le Seigneur avait dit, mettez-les-moi à part pour le ministère, pour le service à laquelle je les ai appelés. Voyez-vous, on revient à cette question d'un appel. Personnellement, voyez-vous, si j'avais pas été appelé par le Seigneur en 1936 pour le servir dans un appel tout à fait personnel, eh bien, j'aurais pas pu tenir au cours de toutes ces années. Tant il y a de souffrance aussi, d'opposition, d'incompréhension. Mais ayant été appelé, cet appel a été ratifié par les anciens de la communauté dans laquelle j'avais vu le jour, et alors j'ai pu commencer mon ministère. avec l'approbation des anciens. Mais alors, après, il y a eu des difficultés 10 ans après, mais ça c'est une autre affaire. Mais ce qui compte, c'est le départ. Et c'est pas les hommes qui m'ont appelé, c'est le Seigneur. Alors, on peut traverser toutes les épreuves. Barnabas et Saul, envoyés par qui? Par le Saint-Esprit. Ils descendent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent dans l'île de Chypre. Ils sont arrivés dans une autre ville, à Salamine, et qu'est-ce qu'ils annoncent? La parole de Dieu. D'abord, où? Dans les synagogues des Juifs, parce que ces lieux leur sont encore ouverts. Tant que ces lieux leur sont ouverts, ils vont là où ils peuvent parler de la parole de Dieu. Les Juifs dans les synagogues, qu'est-ce qu'ils lisaient? Les Écritures, l'Ancien Testament. Alors, si vous voulez savoir comment les églises ont été fondées, c'est toujours parti d'abord des synagogues. L'apôtre Paul prenait les églises qui ont été fondées et auxquelles il a écrit ensuite des lettres, que ce soit l'église des Corinthiens ou des Thessaloniciens, ça a commencé par un enseignement donné dans la synagogue, où Paul leur cherchait à leur prêcher que ce Jésus qu'il leur annonçait était le Messie qui avait été promis dans l'Ancien Testament. Et ils avaient pris comme aide un certain Jean, qui est surnommé Marc, et qui est justement l'évangéliste, qui est devenu l'évangéliste Marc. Ils l'avaient pour aide. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus. Vous voyez qu'il avait un beau nom, hein, fils de Jésus, Bar. Mais on peut porter un certain nom et ne pas être avec le Seigneur. Lui était, il était... Il était avec le proconsul, vous voyez, il avait de bonnes relations, hein, Sergius Paulus, qui était un homme intelligent. Vous pouvez trouver des hommes intelligents qui ne sont pas des croyants encore, mais qui sont intelligents. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Vous voyez qu'il y a des gens qui ont le besoin d'entendre la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que Paul va faire? Est-ce qu'il va demander l'autorisation à Jérusalem, est-ce que je peux aller voir est-ce que je peux aller voir le proconsul? Il a une demande et il y répond. Quelqu'un désire, il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Dans la fin de semaine que nous avons eue à Terrebonne, nous avons vu un homme qui était petit de taille puis qui désirait voir Jésus. Comment s'appelait-il? Zachée. Et il l'a vu et il l'a laissé entrer dans sa maison. Parce que Jésus répond au désir. Voilà un homme qui désire le voir. Il n'ose pas parler à Jésus, mais il désire le voir. Il va dans son arbre et puis Jésus s'arrête parce qu'il sait qu'il y a un homme qui désire le voir. Puis il dit, Zachée, descends vite. Il faut que je loge chez toi. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Si vous désirez le Seigneur, vous l'aurez. Mais si vous le désirez, il ne va pas forcer votre porte. Mais s'il sait qu'il y a un désir dans votre cœur, vous aurez sa visite. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous le désirons? C'est une personne. Voilà comment commence l'œuvre. Et je voudrais que vous puissiez vraiment saisir toutes ces choses. Il manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Elimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Quand vous voudrez témoigner pour le Seigneur, vous aurez de l'opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Je ne vais pas approfondir, mais vous pouvez approfondir, vous. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards sur lui. Ça vous fait penser à qui, là? À Pierre, hein? Devant qui? Ananias et Saphira, hein? Eh bien, vous voyez que Paul avait le même esprit. Et il porte ses regards sur lui et lui dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude. Il a le discernement des esprits. Fils de qui? Du diable. Ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Vous savez, Paul, Saul de Tarse, quand il a été arrêté sur le chemin de Damas, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est devenu aveugle, hein? Et qu'est-ce que ça lui a permis de voir? De voir dans son cœur. Mais il a été 3 jours aveugle. Alors, il sait ce que c'est. Tu seras aveugle pour un temps et tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Mais Saul de Tarse avait connu cela. Qu'est-ce qu'il avait conduit à Damas? Lui, le grand chef qui allait pour persécuter les chrétiens, on l'avait conduit par la main. Alors, vous voyez, il y a une ressemblance en tout cela. Et alors que cet homme est mis de côté, le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé par quelle doctrine? La doctrine du Seigneur. Alors, la doctrine, ça c'est la réponse, hein, qu'il s'agisse de Pierre ou de Paul, parce qu'il a dit qu'il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la doctrine des apôtres, quelle était leur doctrine? C'était la doctrine du Seigneur. Et cette doctrine du Seigneur avait la même puissance que ce soit Pierre qui l'enseigne ou que ce soit Paul. Elle était accompagnée de puissance. Et il crut étant frappé par la doctrine du Seigneur. Il n'y a qu'une doctrine, c'est la doctrine du Seigneur. Alors ne mettez pas Paul et Pierre en opposition. Paul et ses compagnons s'étant embarqués à Paphos se rendirent à Perge en Pamphylie. Jean se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Donc, il y a des moments de séparation. Puis, il continue. Et, nous lisons verset 14, de Perge, ils poursuivirent leur route et arrivèrent à Antioche de Pisidie. C'est une autre ville d'Antioche. C'est une autre Antioche. Étant entrés dans la synagogue, vous voyez comment ils travaillaient le jour du sabbat, ils s'assirent. Après la lecture de la loi et des prophètes, c'est ce qu'on faisait chaque sabbat, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes, frères, si vous avez quelque exhortation adressée au peuple, parlez. » Qu'est-ce qu'on fait? Ils disent, « Non, non, moi je suis dans une synagogue, je ne parle pas. » C'est ça? Si on me demande dans une église, venir apporter un message, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on me demande? Mais je ne vais pas dire n'importe quoi. Comprenez-vous? J'ai un message à donner et ça, c'est ma responsabilité. Vous n'êtes pas responsable pour moi, je suis responsable devant Dieu. Mais peut-être que vous pouvez prier pour moi. Alors, parlez. Paul se leva, ayant fait signe de la main, il dit, hommes israélites, et vous qui craignez Dieu. Il souligne, il croit qu'ils ont la crainte de Dieu puisqu'ils sont dans la synagogue. Écoutez, c'est tellement beau cela. Il vous faut vous remplir de cela. Parlez, puis maintenant, il leur dit, puisque vous m'avez dit de parler, bien, moi je vous demande d'écouter. Écoutez. Le Dieu de ce peuple d'Israël. Donc, de quel Dieu est-ce qu'il leur parle? De leur Dieu. Il n'y a pas de Dieu, hein. Le Dieu de ce peuple d'Israël. Quand je suis dans une église autre que celle que vous fréquentez, est-ce que je pense qu'ils ont un autre Dieu? Non, je dois leur parler de leur Dieu, même s'ils ne le connaissent pas intimement, c'est le même Dieu. Quand je prêche Jésus dans une autre église, c'est le même Jésus, il n'y a pas un autre Jésus. Nous ne connaissons qu'un Jésus. Et quand l'évangile est lu dans une église qui se réclame du christianisme, eh bien, c'est quel évangile? C'est le même que le mien. Nous n'avons pas deux évangiles, n'est-ce pas? C'est le même évangile qui est lu encore dans toutes les églises qui se disent chrétiennes. Donc il y a une base, il y a un moyen de contact. Mais ce qu'il y a, c'est que vous aviez peut-être souvent entendu l'évangile, mais ça n'entrait pas. Ce n'est pas de la faute de l'évangile, c'était de la faute de votre cœur. Ou de ceux qui se bornaient simplement à vous lire cela, sans vous dire que ça devait vous pénétrer, que ça devait toucher votre conscience et votre cœur. Mais ce n'est pas un autre évangile. Et il faut bien leur dire, mais l'évangile que je vous prêche, c'est celui qui vous a été lu. Toutes les fois qu'on vous a lu l'évangile, vous l'avez entendu cet évangile. Et qu'est-ce que cet évangile présentait? Ben, il présentait cela, Jésus-Christ crucifié. Ils ont encore des croix, et il y a encore cette image, mais ce qui n'existe pas, c'est que Jésus n'est plus sur la croix. Mais il y a été, comprenez-vous? Il y a été sur la croix, mais il n'y est plus. Il est ressuscité. Mais ça rappelle quand même le sacrifice. Parce que quand vous pensez au Christ crucifié, que vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Christ sur la croix, vous avez une image intérieure, comprenez-vous? Ce qu'il ne faut pas, c'est se mettre à genoux devant une image. C'est pas cela, comprenez-vous? Mais ça nous rappelle quand même quelque chose. Ça nous rappelle un fait que Christ a été crucifié. Donc on peut prêcher à des âmes et ils savent que ce n'est pas un autre Jésus. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte. C'est un message qu'ils peuvent comprendre. Et il l'en fit sortir par son bras puissant. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. C'est toute l'histoire d'Israël. Et ayant détruit cette nation au pays de Canaan, il leur accorda le territoire comme propriété. C'est passionnant de lire ça dans l'Exode. Hein. Et aussi dans Josué. Après cela, durant 450 ans environ, il leur donna quoi? Des juges jusqu'au prophète Samuel. Vous voyez qu'il repasse tout l'Ancien Testament, depuis le choix qui a été fait en Abraham. Ils demandèrent alors un roi. C'était quel roi? Saül. Ils peuvent suivre le message. Et Dieu leur donna pendant 40 ans Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin. Puis, l'ayant rejeté, pourquoi est-ce qu'il a été rejeté? Parce qu'il n'a pas marché dans les voies du Seigneur. Il leur suscita le roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Donc, quand Dieu choisit quelqu'un, c'est en vue qu'il accomplisse quoi? Ses volontés. C'est pas en vue de le glorifier. Mais il a besoin d'un instrument. Est-ce qu'il a pu vous choisir? Parce qu'il sait que vous allez faire sa volonté. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Vous voyez comment il arrivait au sauveur. En repassant toute l'histoire d'Israël et en leur montrant, mais vous savez qu'il y avait quelqu'un qui était promis un libérateur et Dieu l'a suscité. Ce sauveur qui était promis, Il est venu et c'est Jésus. Alors il prononce là le nom de la pierre angulaire. Avant sa venue, Jean, c'est le baptiste, hein, avait prêché le baptême de la repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean achevait sa course, il avait quel âge environ ? 30 ans, hein, il allait achever sa course, parce qu'on sert au conseil de Dieu. Et il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Donc Jean ne voulait pas qu'on s'attache à lui, mais qu'on s'attache à un plus grand que lui. Il n'était que la voix qui crie dans le désert. Mais voici après moi celui qui vient, dont je ne suis pas digne de délier les souliers. C'est Jean qui avait dit, il faut qu'il croisse, mais que moi je diminue. Homme frère, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Dieu. Ceux qui craignaient Dieu, il y avait beaucoup de Grecs qui avaient la crainte de Dieu et qui venaient à la synagogue aussi, parce qu'ils cherchaient la vérité. C'est à vous que cette parole de salut a été envoyée. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. En particulier, quelle parole ? Ésaïe, chapitre 53, où il était dit que le Seigneur ne serait pas reconnu. Quoiqu'il n'ait trouvé en lui rien qui soit digne de mort, ils ont demandé à Pilate de le faire mourir, puisque les Juifs n'avaient pas le droit de mettre à mort pendant l'occupation romaine. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, donc, vous devez trouver Jésus où ? Dans l'Ancien Testament. Quelqu'un me disait ce matin que c'était des fois difficile de trouver la personne du Seigneur. Mais vous pouvez être sûr qu'en lisant l'Ancien Testament, vous y découvrirez Jésus. Et c'est cela qui nous pousse à lire l'Ancien Testament. C'est lui qui est la clé de l'Ancien Testament. Et c'est à lui qu'on s'attache. Alors, tout ce qui était écrit de lui, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité. Au fond, qu'est-ce que Paul a prêché ? La mort de Jésus, il a prêché la croix. Qu'est-ce que Pierre avait prêché ? Si vous comparez le chapitre 2, il a prêché la croix. Au fond, c'est un message qui vient de la même source. Il est apparu, verset 31, pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, et il y avait des frères. Il y avait aussi qui ? Des femmes. Qui l'avaient suivi depuis là. Galilée, et qui était là, près de la croix. Il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée, à Jérusalem, et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Au fond, qu'est-ce que nous sommes si nous avons rencontré le Seigneur, vivant, ressuscité ? Nous sommes ses témoins auprès de qui ? Auprès du peuple. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie. Alors, vous voyez qu'on retrouve tout ce que nous avons vu dans l'Ancien Testament. Tôt ou tard, les promesses de Dieu se trouvent accomplies. Et quelle est la promesse que le Seigneur a faite pour nous, que nous attendons ? C'est son retour. Il reviendra. Il a fait sa promesse. Vous pouvez être sûr qu'il reviendra. Est-ce que vous vous réjouissez ? Est-ce que nous nous réjouissons de le voir ? Est-ce que nous nous réjouissons de cette joie ineffable et glorieuse ? Nous allons le voir, nous allons voir Jésus. Et ce n'est pas nécessaire que nous mourions pour le voir. Il peut venir même avant. C'est merveilleux. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2. Donc vous voyez qu'il cite le même psaume que l'apôtre Pierre. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, et qu'il ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption, c'est ce qu'il a déclaré en disant, et c'est là qu'il cite justement le même verset que Pierre, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il est dit ailleurs, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. C'est le psaume 16. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, alors, nous-mêmes, notre vie, à quoi sert-elle? Quel est le sens de votre vie? Son corps n'a pas été décomposé comme celui de Lazare. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Voilà donc toute la prédication dans l'Église primitive. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Est-ce que quelqu'un pense encore pouvoir être justifié par la loi de Moïse? Est-ce que vous pensez pouvoir accomplir la loi? Non, on n'en est pas capable. Alors nous sommes donc condamnés. Mais qu'est-ce qui peut nous justifier? Étant justifié sur le principe de la foi. C'est donc en croyant. Et qui est-ce qui peut être justifié? Quiconque. Parce que Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque croit. Donc vous voyez que c'est le même enseignement que donnait Jésus. L'enseignement des apôtres, c'était l'enseignement qu'ils avaient reçu de qui? De Jésus. Et l'enseignement de Jésus, qu'est-ce qu'il disait lui-même? Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de qui? De mon Père, vous voyez. Tout ce qu'il disait, il l'avait entendu de son Père. Donc, vous voyez, vous remontez à la source, de sorte que nous n'avons que l'enseignement. Ainsi, prenez garde et qu'il ne vous arrive ce qui est dit par les prophètes. Voyez, arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la racontait. Donc, vous voyez que l'apôtre Paul prêchait avec force et vigueur. Alors, lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Ça ne vous encourage pas, ça? N'est-ce pas? Donc, c'était la première fois qu'ils entendaient une prédication pareille. Hein. Ils n'ont pas tout compris. Alors, ils sentent le besoin qu'on leur redise les mêmes choses. Vous redire les mêmes choses, disait Paul, cela n'est pas pénible. Hein. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes, c'était ces grecs qui venaient, pieux, il y avait de la piété même chez ces païens, suivirent Paul et Barnabas, et ils s'entretinrent avec eux, et ils les exhortèrent à rester attachés à quoi? À la grâce de Dieu. Ils avaient fait l'expérience qu'ils ne pouvaient pas être justifiés par la loi, alors ne vous remettez pas sous la loi, mais rester attachés à la grâce de Dieu, cette grâce qui leur a été accordée. Alors, Paul ne leur a pas dit, oh, vous savez, moi, le sabbat suivant, je ne viendrai pas. Je vous ai parlé une fois, ça suffit. Non. Il revient une seconde fois. Mais pourquoi est-ce qu'il est revenu? Parce qu'on l'avait redemandé, comprenez-vous? On ne s'impose pas. Quand on les a chassés, Paul est parti. Mais si on leur demande, il revient encore. Alors le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Donc, ceux qui l'avaient entendu la première fois ont parlé, eux, de ce qu'ils avaient entendu et d'autres ont été intéressés. Voilà comment se fait la propagande. Ce n'est pas nous-mêmes qui faisons de la propagande. Paul n'a pas fait de propagande pour lui. Il a commencé en petit avec les moyens du bord, et puis ce qu'il a dit, eh bien, a produit un effet dans les cœurs, et puis une grande foule de la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Et vous voyez bien qu'il a dit, pour entendre Paul. Non, ne mettez jamais les hommes en avant. C'est la parole de Dieu. Les Juifs, alors voyant la foule, furent remplis de jalousie. Ah, c'est terrible. Pourtant, les Juifs connaissaient l'Écriture. Ils furent remplis de jalousie. Mais ce n'est pas la jalousie de Dieu, ça. C'est eux qui se sentent menacés. C'est eux qui se sentent qu'ils ne sont plus à la hauteur. Alors, il y a de la jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant. Puis vous voyez, on va plus loin. Non seulement on contredit, mais on arrive à l'injure. Ça, c'est ça la chair. Et elle ne doit pas avoir de place dans nos relations. Et nous ne voulons pas donner occasion à la chair. Mais vous voyez, c'est le même esprit que nous avons vu dans le chapitre 4 du livre d'Esdras. On veut d'abord collaborer, on demande, venez parler chez nous, et puis revenez une seconde fois, mais la troisième fois, quand on voit ce qui se produit, ah non, non, on n'est plus d'accord. Hein. Et puis, on cherche à saboter l'œuvre. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez, et ils ne disent pas « puisque vous me repoussez hein. ». Il ne faut jamais prendre cela comme quelque chose de personnel. « Puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. » Et c'est là que Paul a eu vraiment cette conviction que son ministère au sein des Juifs, eh bien, était peut-être terminé et il allait vers les païens. C'est ainsi que nous l'a ordonné le Seigneur. Et là, il prend une parole qui se trouve dans les prophètes où il peut dire, Ésaïe 49, verset 6, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Vous voyez, les païens disaient, mais c'est pour nous, vous rendez-vous compte, ils avaient besoin du Seigneur. Et ils étaient dans la joie. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient quoi? La parole de Paul? La parole du Seigneur. Vous voyez que c'est toujours le Seigneur qui est mis en avant. Et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, c'est pas nous qui sauvons les âmes. Dieu les a prédestinés. Alors, nous souffrons tout pour l'amour des élus, pour qu'eux aussi parviennent au salut. Ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 49. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays. Mais les Juifs excitèrent des femmes dévotes. Alors vous comprenez là, quel rôle des femmes peuvent-elles jouer dans l'œuvre de Dieu? Il y a des femmes qui peuvent avoir un mauvais rôle, mais je voudrais souligner qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir un bon rôle. Parce que les femmes qui suivaient Jésus, il a dit qu'elles l'assistaient de leur bien. Luc chapitre 8. Il y a des femmes qui ont été utiles au Seigneur, qui ont eu un ministère merveilleux d'aide pour le Seigneur, comme aussi pour les apôtres, mais il y en a d'autres. Verbe dit des femmes dévotes ou des femmes de qualité ou d'autres. Qu'est-ce qu'il est dit ici dans. Comment? Des femmes distinguées.
Oui, oui, de la bonne société. Vous comprenez? On ne prend pas n'importe qui, mais des femmes influentes.
Quelqu'un me disait qu'il parlerait à la télévision aujourd'hui. N'est-ce pas? Et qui ont une influence. Alors, Dieu peut se servir des femmes d'une façon merveilleuse, mais aussi Satan peut les employer pour contrer l'œuvre de Dieu. Parce que souvent, elles sont plus courageuses que les hommes, hein, soit en bien, soit en mal. Et ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Alors, qu'est-ce que fait Paul et Barnabas? Ils secouent contre eux la poussière de leurs pieds, et ils se souviennent de ce que Jésus avait dit, et puis ils sont allés où? Dans une autre ville. C'est pas plus difficile que ça. Et ils sont allés à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Au lieu de pleurer sur le départ de Paul, ils se réjouissaient. De ce qu'ils avaient reçu, eux restaient là, mais ils étaient dans la joie. On ne parle pas du départ là de Paul. Ils restaient dans la joie du Saint-Esprit. Donc, je crois que nous pouvons appliquer ces choses aussi à nos propres vies. Alors, nous arrivons maintenant à la deuxième partie que vous avez lue. Ce qui s'est passé le premier jour de la semaine, je n'ai pas besoin d'insister, au chapitre 20. Hein. Donc, l'œuvre de Dieu s'est continuée. Lisez tous les actes des apôtres et vous verrez comment les assemblées, les communautés se sont formées. Au chapitre 20, au verset 6, quand Paul, après les jours des pains sans levain, avec les autres, nous embarquâmes à Philippe, et au bout de 5 jours, nous les rejoignîmes à Troas, et nous passâmes là 7 jours. Le premier jour de la semaine, c'était quel jour? Le dimanche. Nous étions réunis pourquoi? Pour rompre le pain, la fraction du pain. Il persévérait dans la fraction du pain. C'est une des 4 persévérances que nous allons faire cet après-midi. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Alors, il y en a qui ont dit, mais il ne parlait pas par le Saint-Esprit. C'était trop long. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Et là, il y a ce pauvre jeune homme, nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre. Alors, faites attention. Alors, Paul, s'il avait parlé par le Saint-Esprit, dit-on, Eutychus ne se serait pas endormi. C'est méconnaître nos corps naturels. Hein. Ils s'endormirent profondément pendant le long discours de Paul, entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas. 3 étages, c'est quand même quelque chose. Et quand on voulut le relever, qu'est-ce qu'il était? Il était mort. Alors, vous pensez ce qu'il a dû se passer dans les pensées, dans les cœurs. Qu'est-ce qui était responsable de cette mort? Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui. Il le prit dans ses bras. Il n'a pas dit, mettons une couverture. Non, non. Il l'a pris dans ses bras. En disant, « Ne vous troublez pas, car son âme est en vie. » Il n'a pas dit « Je l'ai ressuscité. » C'est pas ça. C'est pas Paul qui agit. C'est le Seigneur. voyez, l'ombre de Pierre guérissait les bras de Paul, entourant le cadavre de ce jeune homme, permettait que son âme retourne en lui. Quand il fut remonté, alors il rompit le pain et mangea. Puis il dit, maintenant, on va finir. J'ai parlé trop longtemps, je m'excuse d'avoir fait ça. C'est ça qu'il a fait? Il parla longtemps encore, jusqu'au jour. Vous voyez qu'il pouvait y avoir des réunions assez longues. Après quoi il partit. Et alors le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut un sujet d'une grande consolation. Alors je passe maintenant au verset 17e. Paul était en route pour Jérusalem. Et cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Il a à cœur de parler aux anciens. Et lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, et vous voyez maintenant le ministère de Paul, « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité. » Qu'est-ce qu'il y a dans le service du Seigneur? L'humilité, mais il y a aussi les larmes. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs. Il y avait des opposants. « Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui pouvait vous être utile. Et je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement, et puis où? Dans les maisons. » Il paraît qu'aux États-Unis, il y a des groupes qui interdisent qu'on parle dans les maisons. Je ne sais pas s'ils ont lu l'Écriture. Mais dans les maisons, qu'est-ce qu'il y a? Pour parler, jour et nuit, la télévision. Alors ça, on ne l'interdit pas. Mais on vous interdit de parler dans les maisons. Or, vous voyez que Paul, lui, il dit, mais je vous ai enseigné publiquement, mais aussi dans les maisons. Annonçant aux Juifs et aux Grecs, quoi? Quel est le message? La repentance envers Dieu. Donc c'est la croix. Pour parler de repentance, il faut prêcher la croix. Et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il présente la personne du Christ. Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Qu'est-ce qui liait l'apôtre Paul? Qu'est-ce qui le dominait? C'était l'Esprit. Je vais à Jérusalem. Est-ce qu'il sait ce qui lui arrivera? Non. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alors, quand on sait que des liens et des tribulations nous attendent, on n'y va pas. Parce qu'on veut sauver sa peau. Non, on y va quand même. Le Seigneur savait ce qu'il attendait à Jérusalem. Il l'avait dit plusieurs fois. Je vais à Jérusalem, j'y serai arrêté, on me fouettera, on me crachera au visage, et je serai crucifié. Mais il ajoutait le troisième jour, je ressusciterai. Mais ça, il l'avait oublié, les disciples. Mais vous voyez, verset 24, et c'est ça l'attitude du croyant. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Comme si elle m'était précieuse. Qu'est-ce qui compte? C'est de pouvoir achever, accomplir sa course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. De qui est-ce qu'on reçoit un ministère? Du Seigneur Jésus. Et ce ministère, c'était annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. L'évangile de la grâce de Dieu. Alors maintenant, verset 25, « Voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage,
voyez, il veut qu'il soit attaché à quelqu'un d'autre que lui. Vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. Il ne s'est pas prêché lui-même, il a prêché le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Et vous comprenez, pour annoncer tout le conseil de Dieu, bien, c'est tout un travail. Il faut revenir sur bien des choses. Tout le conseil de Dieu, ce n'est pas simplement le salut hein, en Jésus, le pardon des péchés, mais c'est tout cet enseignement du Seigneur, cet enseignement que le Seigneur a donné à ses disciples et qui se résume surtout dans l'amour. Alors verset 28, « Prenez donc garde à vous-même. » Ça, c'est à qui est-ce qu'il s'adresse, l'apôtre, là? Aux évêques, aux anciens. Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Qui est-ce qui établit les anciens, les évêques? C'est les hommes? C'est le Saint-Esprit. Et si nous étions conséquents, et si nous revenions vraiment à la parole de Dieu, nous verrions que ce n'est pas par des votes qu'on établit des anciens. Un ancien, il aspire à la surveillance. Quelqu'un qui veut devenir ancien, c'est lui qui aspire. Et on le sait, il a ce désir, c'est vraiment une vocation pour lui. Et alors, l'Église entière peut reconnaître si vraiment il en a les qualifications. De sorte que ce n'est pas une espèce d'élection où il y a des pour, où il y a des contre, où il y a des jalousies, et puis où on est ancien seulement pour un ou deux ans, ou je ne sais pas trop quoi. Le caractère d'un ancien, il va jusqu'à la fin de notre course. Alors, que ce soit vraiment le Saint-Esprit et qui nous établisse dans une responsabilité. Si vous avez une responsabilité, elle doit venir de qui? Du Saint-Esprit. Et alors, elle est reconnue par les frères. Et c'est cela qui donne de l'autorité. Autrement, nous n'avons aucune autorité. Pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son sang. L'Église, c'est le Seigneur qui s'est acquise. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner des disciples après eux. Alors voilà, n'est-ce pas, le travail de la secte. Ce sont des hommes qui enseignent, mais qui isolent une vérité et qui veulent grouper les gens autour d'une vérité. C'est cela, le sectarisme. C'est une vérité, peut-être, n'est-ce pas? Mais on y donne à cette vérité une importance capitale. Or, qu'est-ce qui est capital? C'est une vérité ou bien c'est la vérité? C'est la vérité. Et qu'est-ce que c'est la vérité? C'est une personne. C'est Jésus. N'est-ce pas? Le baptême, c'est une vérité. Mais je ne vais pas me réunir au nom du baptême. La table du Seigneur, c'est une vérité. Mais je ne veux pas me réunir au nom de la table du Seigneur. S'il me faut choisir, et ça a dû m'arriver, je préfère la personne à la table. Comprenez-vous? Ce n'est pas la table qui est la vérité, c'est le Seigneur de la table. C'est ça le sectarisme. C'est isolé. La table du Seigneur, c'est une vérité. Mais il ne faut pas en faire le centre. Le centre, c'est Jésus. Le centre, c'est toujours une personne. Et toutes les vérités sont en Jésus, sont dans cette personne. N'isolez jamais une vérité. Et il y en a d'autres. La guérison divine, c'est une vérité. Les dons du Saint-Esprit, c'est une vérité, mais si vous isolez cela et que vous en faites le centre, vous devenez sectaire. Et vous ne pouvez plus parler avec ces gens-là directement de la personne du Seigneur. Ils vous parlent tout de suite ou du baptême du Saint-Esprit, c'est une vérité le baptême du Saint-Esprit, ou du parler en langue, et tout de suite, si vous ne parlez pas en langue, c'est fini. Hein? Alors, c'est cela qu'il faut toujours revenir au Seigneur. C'est le Seigneur qui nous unit. Et quand vous êtes avec le Seigneur, mais au-dessus de toutes nos divergences, nous pouvons parler du Seigneur. Alors, verset 31. « Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, donc il était resté 3 ans où ? À Éphèse. Hein. Vous voyez, il est resté 7 jours à une place, il est resté 1 année à une autre place, là il avait pu rester 3 ans. Mais il va plus loin. « Je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. » Vous voyez qu'il avait un amour pour chaque individu. Et maintenant, à qui est-ce qu'il les recommande? À la fin de cette retraite, à qui est-ce que nous pouvons vous recommander? Je vous recommande à Dieu. Et à la parole de sa grâce. À celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. C'est à lui que nous vous recommandons. Verset 33, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Il était complètement désintéressé. Il ne servait pas le Seigneur pour gagner sa vie, mais parce qu'il avait été appelé et Dieu pourvoyait à sa manière, à ses besoins. Et Paul peut dire, il est pour nous un exemple, n'est-ce pas? Je sais être dans l'abondance, mais je sais aussi avoir faim. J'ai appris à être content dans la situation dans laquelle je me trouve. Mais c'est un apprentissage, ça. C'est beau. Bien, voilà un homme qui prêche, mais qui vit ce qu'il prêche. Et il vous fait penser à Agé. Agé, le prophète de l'Éternel, prêcha par le message de l'Éternel. Vous voyez que c'est le même caractère. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. C'est vraiment évangélique. Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes les autres choses vous seront données par cela. Et alors, nous avons des actions de grâce parce que nous voyons que c'est vrai. Quand vous mettez le Seigneur en premier, vous voyez que le Seigneur vous bénit et prend soin de vous. Mais il faut faire le saut. Oui, mais on a peur. Mais c'est ça la foi, c'est croire que le Seigneur ne va pas vous abandonner. Et c'est comme cela que vous êtes fortifié, parce que vous voyez, quand on a cru sans voir, tout à coup, on voit. Il ne nous montre pas d'abord. C'est la nuit, la foi, hein? La nuit profonde. Mais quand vous l'avez cru que c'est vrai ce qu'il a dit, tout à coup, alors vous voyez. Vous voyez quelque chose. Les croyants voient, mais après avoir cru. Quand tu as un besoin, entre dans ta chambre, ferme la porte sur toi, prie ton Père qui voit dans le secret. Et alors, quand vous n'en avez parlé qu'au Seigneur, de cela, d'un besoin, et puis que vous voyez que le Seigneur y pourvoit, et que personne ne savait que vous étiez dans ce besoin-là, qu'est-ce que ça vous montre? Que Dieu s'occupe personnellement de vous, et qu'il vous aime vous-même, et que vous n'avez pas besoin de sonner à toutes les portes. C'est cela qui est tellement beau. Alors vous avez une vie personnelle avec le Seigneur. Vous croyez que le Seigneur est quelqu'un qui vous répond sur des besoins précis. parce que vous ne demandez pas pour vous-même, vous demandez pour l'accomplissement du ministère qu'il vous a confié. Alors on est renouvelé dans sa grâce. Vous savez vous-même, verset 34, que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Vous voyez que Paul ne disait pas « Moi, vous savez, je suis le grand apôtre Paul, je ne touche à rien. Travaillez pour moi, moi je me donne entièrement à la parole. » S'il le fallait, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait de ses mains. Pour n'être à la charge de personne. Et on le voit, par exemple, dans le chapitre 18 des Actes, quand il est allé à Corinthe, il a travaillé avec qui? Avec un couple qui faisait des tentes, et il a travaillé avec eux. Verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Cette parole, elle se trouve dans quel évangile? Aucun évangile. Parce que vous savez que dans Jean, il est dit que si on avait mis toutes les paroles de Jésus et tous les actes qu'il a faits, le monde entier serait trop petit pour contenir les livres qu'on écrirait. Donc, toutes les paroles que Jésus a dites n'ont pas été toutes retenues dans les évangiles, mais en voilà une qui nous est donnée dans les actes et qui est une parole du Seigneur, mais qui ne se trouve pas dans les évangiles, mais qui est pourtant une parole du Seigneur. Il y a plus à donner qu'à recevoir, plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et pria avec eux tous. Bien, c'est ce que nous voudrions faire cet après-midi. Et tous fondirent en larmes en se jetant au cou de Paul. Tiens, ils s'embrassaient là. Et oui, il l'a dit, il l'embrassait. Affligé, surtout de ce qu'il avait dit qu'il ne verrait plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Nous sommes appelés à... Nous passons. Alors, c'est au Seigneur que nous devons nous attacher. Et non pas aux hommes. Mais on peut quand même avoir de l'affection les uns pour les autres, parce que ce ne serait pas naturel sans cela. Voilà. J'espère que vous-même, vous continuerez cette lecture du livre des Actes et que de plus en plus, vous arriverez à comprendre quels sont les caractères d'un vrai réveil spirituel. On revient réellement à la parole de Dieu. On sait que c'est l'heure de Dieu de se réveiller et puis on a un esprit de prière et on continue la course jusqu'au bout. Et comment est-ce que l'Église se construit? Eh bien, par le témoignage que nous apportons aux uns et aux autres. C'est uniquement la parole de Dieu. Dans la fin de semaine que nous aurons le mois prochain, c'est spécialement le livre de Néhémie que nous étudierons. Et le thème, c'est le troisième volet, après avoir parlé de l'autel sur ses bases, de la maison sur son fondement, nous inspirant du livre d'Esdras, nous parlerons des murailles, parce qu'il fallait encore construire les murailles autour de la ville de Jérusalem. Et ça, c'est la tâche de Néhémie. Nous allons trouver dans Néhémie comment ils ont reconstruit les murailles. Mais si on a mis l'autel sur sa base ancienne, la croix à sa vraie place, si on a mis la pierre sur son fondement, les pierres sur son fond, leur fondement, les murailles, on doit les mettre aussi sur leur emplacement. Alors, la muraille, ça protège et puis ça sépare. Alors, on va parler de la séparation. Donc, dans la prochaine séance, si nous sommes encore là, si Dieu le permet, la vraie séparation. Est-ce que notre séparation, c'est la séparation entre enfants de Dieu ou bien une séparation d'avec le monde? C'est d'avec le monde, n'est-ce pas? On est séparé du mal et du monde. On est proche de toutes les âmes, mais séparé de toutes sous Dieu. Et ce n'est pas le contact avec les âmes qui nous souille, comme je le dis souvent, c'est de garder du péché dans son cœur. C'est ça que nous vont bien faire. Alors, nous allons voir la fausse séparation et la vraie séparation dans la construction des murailles. Et c'est quelque chose de tellement triste. On a construit des murailles entre frères. On construit des murailles entre enfants de Dieu. Parce qu'on n'a pas tout à fait la même pensée sur un pont ou sur un autre. Dieu notre Père,
nous voulons te demander que ce bain que nous avons pris dans ta parole nous purifie et nous sanctifie et que nos pensées soient corrigées par cette parole et que tu nous donnes des convictions qu'ayant vu l'exemple de Paul, nous puissions devenir ses imitateurs, comme il l'est écrit, puisqu'il pouvait dire « Soyez mes imitateurs, comme je le suis du Christ ». Accorde-nous cette grâce de vivre dans le Christ, et que cet après-midi, ce soit le sommet de cette retraite, ce que toi tu as préparé pour nous, que nous puissions le recevoir de ta main comme la bénédiction suprême que tu voulais nous accorder en Jésus et pour ta seule gloire. Amen.